Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission de l'art du débat, où nous parlerons cette fois-ci de la question des trésors nationaux, de cette procédure qui vise à empêcher pendant un certain temps des œuvres de sortir de France, le temps de donner à l'État la possibilité ou non de les acquérir. Donc pour parler de ces trésors nationaux, deux invités, Éric Turquin, expert et spécialiste de tableaux anciens à Paris, Julien Lacaze, qui est vice-président de la Société pour la protection des paysages et des sites, et qui maintenant s'appelle Sites et Monuments. Un troisième siège est vide, malheureusement. Il aurait dû être accordé, donné à quelqu'un du ministère. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Nous avons contacté à plusieurs reprises le ministère de la Culture. Le service communication du ministère de la Culture a été extrêmement coopératif. Malheureusement, il n'a jamais eu de réponse de la direction des patrimoines. Comme d'habitude, j'allais dire, sur la question des trésors nationaux, et plus généralement, quand on pose des questions qui fâchent. Nous avons eu en revanche, la communication a eu une réponse du cabinet de la nouvelle ministre. Il faut dire que c'est un exploit parce que actuellement le cabinet est en cours de constitution, donc ce n'est pas simple. Ils ont peut-être d'autres choses à faire que d'envoyer quelqu'un pour parler des trésors nationaux à la tribune de l'art. Mais ils l'ont fait néanmoins, enfin en tout cas ils ont essayé d'avoir quelqu'un. Ils ont proposé le nom de Yannick Durand, donc directeur du grand département des objets d'art et directeur du département des objets d'art du Louvre également. Et malheureusement, Yannick Durand n'était pas disponible. Donc nous avons ce siège vide, mais nous avons suffisamment ici de personnes connaissant bien la question des trésors nationaux pour pouvoir en parler de manière claire. C'est dommage pour le ministère de la Culture qui, s'il avait été représenté, aurait peut-être pu donner la politique qui est la sienne. Dans un premier temps, nous allons commencer avec Julien pour que vous allez nous rappeler ce que c'est qu'un trésor national et quelle est la procédure pour créer, pour définir un trésor national et ensuite essayer de l'acheter.
Alors, on peut tout d'abord commencer par s'intéresser au mot lui-même. Alors on le sait rarement, mais l'expression donc trésor national a été pour la première fois écrite dans les accords du GATT, donc du 30 octobre 1947, qui est l'accord en fait de libre-échange et de libre circulation qui lie la quasi-totalité des pays du monde. Et donc dans cet accord, il y a une exception à cette libre circulation des marchandises qui justement est relative aux mesures imposées pour la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, et à condition évidemment que ces mesures ne soient pas des restrictions déguisées au commerce international. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que cette exception a été reprise mot pour mot par le traité de Rome en 1957, par l'article 30 du traité de Rome. Et donc on le constate, on peut imposer des mesures pour protéger des trésors nationaux qui ont une valeur artistique, historique ou archéologique. Et on ne qualifie pas cette valeur, c'est-à-dire qu'on ne dit pas une valeur significative, une valeur remarquable, une valeur exceptionnelle ou même une valeur majeure. Ce qui permet aux pays, finalement, qui sont partis à ces deux accords, et ils le sont très généralement, de faire ce qu'ils souhaitent. Ce qui explique que des pays comme la Grèce peuvent avoir des régimes en fait, de circulation des œuvres d'art extrêmement contraignants, l'Italie également. Donc, ensuite, il y a les législations nationales qui doivent se caler par rapport à ce droit international. Et la France a eu, je dirais, une attitude assez étonnante. On est passé un petit peu d'un extrême à l'autre. Alors le premier extrême, c'était une loi de 1941, qui en réalité était la reprise d'une loi de 1920, qui permettait d'interdire tout simplement la sortie d'un bien du territoire sans indemnisation et de l'interdire autant de fois que nécessaire. Ça, c'était le régime de la loi de 1941 qui a disparu avec la loi du 31 décembre 1992, où là on est passé à une toute autre conception de la circulation des œuvres d'art, qui est finalement celle de la retenir un certain temps. Donc au début c'était 3 ans, puis maintenant c'est 30 mois, pour laisser le temps à l'État de se porter acquéreur du bien ou éventuellement de le classer au titre des monuments historiques. Mais si l'État ne fait pas l'effort à l'issue de ces 30 mois de réunir la somme ou d'indemniser éventuellement un classement fait d'office, eh bien le bien sort de France. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette loi de 92 ne découle pas du tout des textes européens. On pouvait faire tout à fait autrement et maintenir le régime qui était en vigueur en 1941. Simplement, au lieu de faire une déclaration à la douane, on aurait fait une déclaration au ministère de la Culture. Donc là, c'est simplement, voilà, c'est un changement de conception qui est intervenu en 1992. Hein. On est passé vraiment d'un extrême à l'autre.
Alors, on verra après avec vous plus loin comment cela fonctionne aujourd'hui, mais je vous tourne tout de suite vers Éric Turquin. Quel que soit ce que vous pensez éventuellement du régime actuel, nous y viendrons, le régime antérieur était très restrictif. Vous avez eu affaire à ce régime, comment est-ce que ça se passait ?
Moi j'ai bien connu ce régime, puisque à l'époque je ne travaillais pas en France, j'étais à Londres, et donc je le voyais un petit peu de l'extérieur, et je voyais la différence entre un régime, je vais dire, assez libéral, mais tout de même avec un certain nombre de contraintes en Angleterre, et le régime qui était en France extrêmement protecteur, en tout cas en théorie, et qui fait que, pour être très franc, tout le monde trichait.
C'est ça. C'est donc, le risque d'un régime trop protecteur, il fait que bah, finalement, comme on ne peut rien sortir, on sort tout en douce.
Bah, c'est pas passé. Un risque. Si vous vous mettez dans une situation où un objet vaut la moitié de sa valeur à l'intérieur et le double à l'extérieur, vous pouvez mettre tous les fonctionnaires de France en se tenant par la main à la frontière franco-belge, les objets vont sortir. Parce que le marché, le marché, c'est dans l'essence, la physique même du marché, le marché est liquide, il va vers l'endroit le plus logique, le plus simple, surtout le plus simple. Vous avez un aspect aussi dont on ne parle pas suffisamment, qui est la complexité. La dernière des choses que veulent des propriétaires, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, c'est de la complexité. C'est la barbe. Et les gens qui achètent des objets d'art, en général, c'est plutôt par plaisir.
Ce qu'il faut dire, c'est que quand quelqu'un essayait de sortir un objet de manière frauduleuse, il faut appeler les choses par leur nom, il pouvait y avoir confiscation à l'époque. C'est-à-dire que les musées se sont enrichis parfois d'œuvres qui étaient confisquées.
Et on pouvait retenir les biens à la valeur déclarée en douane, puisqu'il y avait des taxes.
C'était donc deux lois différentes.
Voilà, la sous-évaluation. Donc il y avait cette possibilité de retenir la valeur déclarée. Ouais.
Bah, y avait deux lois. Y avait une première loi qui était une sorte de droit, qu'on appelait le droit de rétention, qui est une loi de 41, qui a été faite en fait pour à l'époque de Vichy et qui a été extrêmement efficace dans l'année où elle a été votée, qui était faite, il y avait une énorme crainte dans le milieu des protecteurs du patrimoine français dans les années 40-41, après des échanges, on va dire, malheureux à la pointe de l'épée avec les musées espagnols, et on a tout fait en fait à l'époque pour empêcher que l'Allemagne n'exporte. Et en fait, la loi de 41 a très bien fonctionné, parce qu'en fait, il y a eu relativement peu d'exportations patrimoniales entre 41 et 44, alors qu'il y avait un risque majeur. Donc elle a été faite pour ça. Cette loi, à partir de 44, tout le monde l'a oubliée. Et puis il y a des petits malins qui, dans les années, à la fin des années 60, ont ressorti cette loi, qui a fonctionné effectivement. Elle a permis de faire des affaires extraordinaires à des musées qui achetaient à des prix défiant toute concurrence, puisque ça si vous étiez dans un partage familial, vous aviez une fille qui était en Angleterre, une autre qui était en Italie et la troisième qui était en France. Bon, vous aviez un partage qui se faisait avec des valeurs, comme on dit, familiales, c'est-à-dire plutôt faibles. Bah, celle qui exportait vers l'Italie ou celle qui exportait vers l'Angleterre, elle se faisait piquer les meilleurs tableaux ou les meilleurs objets d'art. Bon, ça a permis au musée de s'enrichir. Est-ce que c'est une politique à long terme ? Je ne le crois pas.
On est à peu près d'accord avec vous sur ce plan-là. Oui. Julien, donc alors, continue maintenant.
Cela dit, du point de vue des concepts, c'est quand même assez intéressant de voir que donc jusqu'en décembre 1992, il y avait quand même une forme de souveraineté qui s'exerçait sur les œuvres d'art présentes en France. Et que cette part de souveraineté, qui pouvait tout simplement... L'État disait non, voilà, cette œuvre restera en France sans d'ailleurs apporter de solution ni de statut pour pérenniser cette protection, ce qui n'avait pas grand sens. Mais quand même, c'est assez intéressant de voir qu'il y avait cette part de souveraineté, ce refus qui est tout à fait permis par les traités internationaux, et qu'on est passé à une toute autre conception après 92, qui est celle de payer pour retenir. Et même de payer, et ça on en reparlera, parfois plus cher que la valeur internationale. C'est un petit paradoxe, parce qu'on se retrouve avec des procédures d'expertise et de contre-expertise qui aboutissent à des résultats qui sont très favorables aux propriétaires. Donc c'est assez, on a vraiment totalement changé de braquet, une souveraineté totale à l'absence de souveraineté presque complète, sauf pendant cette période de 30 mois, pendant lequel le bien doit demeurer en France. Donc c'est assez intéressant du point de vue des concepts. Après, c'est vrai que c'est une loi, c'est toujours une potentialité. Après, on l'exerce ou on ne l'exerce pas, cette possibilité. Tout est dans la pratique et dans la mesure de l'administration.
Éric, je vous vois bouillir. Oui. Alors, peut-être que répondez à Julien et peut-être aussi ensuite, peut-être que vous pourrez nous décrire de la part de quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer qu'est-ce que vous devez faire quand quelqu'un vous apporte une œuvre que vous estimez au-dessus d'un certain prix. Ce serait peut-être intéressant de rappeler, en tout cas au moins pour les tableaux, qu'il y a un prix limite. Et au-dessus de ce prix-là, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les procédures que vous avez à faire en tant que représentant du vendeur pour obtenir le certificat de libre circulation?
Alors, si vous voulez, pourquoi la loi de 92? En fait, tout simplement parce que le système précédent ne marchait pas. Il ne marchait pas. Il a permis effectivement à l'État de faire des affaires dans des conditions qui n'étaient pas forcément toujours très honorables. Mmh. Il achetait des objets à un prix qui n'était pas leur prix. Parce qu'il n'y a pas un prix international et un prix français. Un objet a un prix. Si vous ne voulez pas payer ce prix et que vous voulez forcer les gens à vous vendre, bah vous vous mettez dans des conditions dans lesquelles vous avez des rapports difficiles avec vos citoyens. Et est-ce que... Je crois qu'il y a eu une véritable réflexion à cette époque, à ce moment-là. Est-ce que c'est favorable au patrimoine? Est-ce que c'est là qu'il faut un petit peu réfléchir? Le problème, si vous voulez, c'est pour ça que je suis très reconnaissant, Didier, d'avoir organisé ce débat à froid. Là, il n'y a pas de drame. On n'est pas en train de discuter de l'exportation majeure d'un objet patrimonial.
On reviendra sur certains cas. On va en trouver, malheureusement.
Alors, vous m'avez piégé.
Non, pas piégé.
Vous n'êtes pas concerné du tout.
J'espérais avoir un débat, pour une fois, calme, où on prenne un petit peu de recul sur ces problèmes de patrimoine. D'abord parce que je pense que je suis un ami du patrimoine, je suis très français, moi je me bats pour le marché français, et en me battant pour le marché français, je pense que je suis le meilleur protecteur du patrimoine. Quand je me bats pour que mes clients puissent exporter un tableau à son prix, ou puissent le vendre à son prix, parce que je suis encore plus content s'il est acheté par un musée français, mais là où je ne suis pas content, c'est quand des pressions sont faites sur un vendeur. Je ne suis pas content parce que c'est mon rôle de défendre, c'est mon rôle d'avocat, si on peut dire, mais je ne suis pas content en tant que défenseur du patrimoine. Parce que pour sauver un objet, on ne mesure pas l'impact négatif que cette défense a sur les autres propriétaires. Et pour un objet que vous allez sauver, en fait, vous en avez des centaines qui vont disparaître, qu'on ne verra jamais.
Alors, sur la procédure, qu'est-ce que vous devez faire concrètement quand il y a un objet qu'on vous confie et on vous dit, en général, je crois que c'est le cas, c'est-à-dire que souvent, c'est vous qui faites les démarches pour le propriétaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, écoutez, dans mon métier, on nous apporte un tableau. En général, les gens ne savent pas ce que ça vaut ou ils cherchent à savoir ce que ça vaut. Et si nous leur disons que le tableau vaut plus de 150 000 euros, puisque la limite dans mon domaine est 150 000 euros, ce qui, en fait... On parle de trésors nationaux, c'est une limite relativement basse, hein, non, les tableaux anciens.
Un trésor national, peut-être, c'est pas forcément la valeur, comme le disait Julien tout à l'heure, la définition du trésor national, on définit pas la valeur, et il peut y avoir des œuvres très importantes qui ne sont pas forcément très chères.
Oui, mais elles auront, dans ce cas, dans ma spécialité, c'est qu'elles auront une valeur historique, pas une valeur de peinture. Un tableau qui vaut moins de 150 000 euros, ça peut être un magnifique tableau, hein. Ça peut être une œuvre merveilleuse pour vous, pour moi, mais est-ce que c'est un trésor national? Trésor national, on parle de 10 objets par an.
Il y a quand même un critère. Dans les traités internationaux, effectivement, il n'y a pas de critère. C'est un bien qui a une valeur artistique, historique, archéologique. Et justement, dans la loi de 92, il faut qu'ils aient un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. Voilà, donc intérêt majeur. C'est ça, en fait, le
sachant que pour certains, par exemple pour les archives, je crois que c'est 0 euro.
Voilà, alors après, il y a des seuils dont on peut peut-être parler. Donc, il n'y a finalement aucune exigence et aucune procédure. On peut partir avec un tableau en le mettant sous son bras s'il vaut moins de 150 000 euros. Donc ça, c'est le seuil pour les tableaux, mais il y a aussi un seuil pour les meubles qui est de 50 000 euros. C'est le même seuil pour les sculptures ou pour les livres, toujours 50 000. Et 15 000 euros, par exemple, pour les dessins, pour les gravures, pour les monnaies postérieures à 1500. Donc ce sont des offres qui ont quand même une certaine valeur, je dirais, financière, et qui, en plus, ont cette importance majeure du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
Alors, donc, ce tableau, on vous apporte un tableau, plus de 150 000 euros. Déjà, la limite, dire plus de 150 000 euros, un tableau qui vaut 130 000 euros et pour un valeur 160 000, c'est déjà un petit peu difficile.
Mais comment ça marche ?
Non, mais alors, quand il vaut 130 000 euros, nous avons tendance à demander le certificat. D'accord. Si vous voulez, ce qui est important pour la mise en vente d'un objet, c'est qu'il soit libre. Si l'objet n'est pas libre, vous ne pouvez pas travailler.
Il ne faut pas qu'il y ait d'incertitude, en fait.
Non, il ne faut pas qu'il y ait d'incertitude. Le marché aime de moins en moins les incertitudes. Les étrangers ne comprennent absolument pas, mais quand je dis absolument pas, c'est absolument pas nos réglementations qui leur sont complètement étrangères. Donc, si vous voulez, si on veut mettre un objet et avoir son prix, eh ben, il faut le mettre dans des conditions où justement on peut le vendre librement. Et,
alors qu'est-ce que vous faites ?
Donc nous faisons une demande à l'administration, on transmet aux affaires culturelles une photographie du tableau, sa description, sa provenance, toutes les informations utiles, et je recommande et je mets personnellement toutes les informations que je suis capable de mettre et qui contribuent à la valeur de l'objet. Si l'objet est considéré comme effectivement un bel objet, ou pas un bel objet, mais qu'il n'a pas un intérêt patrimonial majeur, comme vous, Julien l'a justement souligné, eh bien j'ai le permis de ce qu'on appelle un passeport, c'est-à-dire que l'objet peut circuler, il peut être vendu librement. Ça laisse à l'État la possibilité de l'acheter, hein. Ça laisse à l'État la possibilité de préempter quand il passe en vente publique. Simplement, ça le rend libre. C'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à cette procédure qui doit rester une procédure dans l'esprit de la loi et je pense de façon intelligente, qui doit rester très exceptionnelle.
Alors, donc vous dites, vous faites cette demande et vous avez le retour. Combien de temps pour le retour pour,
4 mois.
4 mois en principe.
Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 mois, Julien, au sein des musées? Au sein du ministère de la Culture.
Au sein des musées, c'est ça qui est en fait déroutant et qui pose probablement problème, c'est que l'examen est confié à différents conservateurs, hein, les chefs de grands départements.
Expliquez peut-être par rapport aux chefs de département, où je peux le faire si vous
souhaitez.
Donc le département, comme vous le savez, le Louvre a plusieurs départements qui dépendent du président du Louvre, du président directeur du Louvre. En revanche, il y a, pour ce qui concerne les trésors nationaux, notamment les trésors nationaux, il y a des grands départements qui, eux, dépendent directement du ministère de la Culture, de la ministre de la Culture. Donc certains des chefs de grands départements sont également des chefs de département du Louvre. Par exemple, nous espérions avoir Yannick Durand du département des objets d'art, qui, lui, est en charge de signer, pour quand c'est une œuvre d'art majeure. Je pense que Versailles aussi a quelque chose, peut-être, d'ailleurs. La répartition de Versailles n'est pas...
Oui, alors Versailles se plaignait à un moment. Alors je ne sais pas si ça a évolué, justement, d'être un petit peu court-circuité par le Louvre et que le Louvre avait une logique particulière qui n'était pas
alors,
forcément celle...
Justement. Prenons donc les tableaux. C'est bien Sébastien Allard qui est chef du grand département, qui est également le chef du département des peintures. Pour les dessins, c'est Xavier Salmon qui est chef du département des arts graphiques, chef du département des arts graphiques et qui donne l'autorisation au nom. Est-ce que ça ne peut pas... Un des problèmes, je pense, que cela pose, et en tout cas que je constate, c'est que souvent, bien souvent, les chefs de grands départements ne pensent qu'à leur département, c'est-à-dire qu'au Louvre, ou éventuellement à Orsay, sans se poser la question, et j'ai eu des confirmations par beaucoup de conservateurs qui auraient été intéressés par une œuvre qui aurait pu être trésor national et qui a eu l'autorisation de sortie, on les a même pas consultés.
Alors qu'un musée de province aurait éventuellement.
Qu'un musée de province ou que les archives, par exemple, je pense au grand dessin de la cathédrale de Rouen, un des grands dessins, un dessin extraordinaire qui se retrouvait chez Sam Fogg sur plusieurs salons, j'en ai parlé dans un article. Les archives n'ont pas du tout été consultées alors que c'était un dessin essentiel. C'est Xavier Salmon qui, de son côté, a dit ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse pas la collectivité, on donne la signature. Et ça, c'est quand même un problème, c'est-à-dire que c'est une personne qui va donner son accord.
Mais je crois, si vous voulez, il faut être pragmatique. C'est pas le privilège d'un musée ou d'un autre. C'est que tel que je vois fonctionner dans ma spécialité, l'expertise est au Louvre. L'expertise dans les tableaux anciens, elle est au Louvre. Elle est en plus à Paris. Elle est disponible. On va pas faire venir un conservateur. Il faut quand même que ça fonctionne. Et apparemment, historiquement, les meilleurs, les gens les plus pointus, dans des spécialités comme les primitifs italiens, les primitifs français, ils sont au musée du Louvre. Et tel que je le vois fonctionner dans le département des peintures, Sébastien Allard est effectivement le chef du département, mais quand j'ai une demande pour un tableau hollandais, eh bien, c'est Blaise Ducos qui vient voir le tableau. Quand j'ai un primitif italien, c'est Delieuvin. Quand j'ai un tableau du 17e italien, c'est Stéphane Loire. Et c'est lui qui, s'il pense qu'effectivement cet objet est un trésor national, est quelque chose qui en aucun cas ne devrait quitter le pays, pour lequel il faut faire des efforts exceptionnels, c'est lui qui va en parler à Sébastien Allard, qui ensuite en parlera à M. Martinez, etc. Donc, pour le moment, en tout cas, dans ma
normalement,
spécialité, M. ça
Martinez
fonctionne.
N'a dans cette procédure, à mon sens, et même ce qui était écrit dans les textes, il n'a pas à dire
non,
quoi que ce
pas,
soit.
Non, mais je pense que ce n'est pas son rôle. Si vous l'attendez.
Il n'y a rien d'ailleurs dans les textes.
C'est l'expertise qu'ils vont chercher, ce n'est pas autre chose, c'est l'expertise. Et au fond, est-ce que c'est pas ça qui est vraiment très important? Parce que l'idée, c'est pas à nouveau. Il faut se mettre dans la logique de la loi de 92, ou alors on ne sait plus où on va. Mais la loi de 92, elle est faite pour les trésors nationaux. Elle n'est pas faite pour qu'un musée de province ou une bibliothèque s'enrichisse. Vous me parlez de ce dessin qui est chez Sam Fogg, mais il est toujours disponible, puisque vous me dites qu'il a projeté à 3 fois, qu'il était sans doute trop cher. Il est toujours disponible. Ce n'est pas parce qu'un objet sort qu'il est perdu. Vous avez le cas de plusieurs objets qui sont sortis,
à commencer par un tableau de Lenin. Il est sorti pas du tout au prix où il est proposé maintenant par Sam Fogg.
Mais hein. c'est pas le problème.
Parce que les musées auraient pu faire une affaire.
Est-ce que c'est souhaitable?
Non, pas du tout. Il a été demandé, l'autorisation de sortie a été demandée en disant un prix, en donnant un prix. Donc là, c'est le marchand, c'est le vendeur qui a donné son prix. Et il n'a pas été retenu. Ensuite, il a été acheté par un ou deux marchands. Et ensuite, le prix devient plus important. Donc là, le prix qui a été demandé est d'ailleurs trop important puisqu'il ne se vend pas. Mais le prix qui était demandé au départ, c'était un prix qui n'était pas imposé par l'État. C'était le prix qui était demandé par l'exportateur. Donc là, si cette chose qui est un trésor national, ne pas voir que c'est un trésor national, ça prouve que l'expertise n'est pas toujours là où on pense qu'elle est. Parce que ne pas voir que c'est un trésor national, n'importe qui voit que c'est un trésor national. Et il est évident que c'est non seulement un trésor national, mais il faut se poser la question. En fait, je crains, et je vais donner la parole ensuite à Julien, je crains qu'on ne se pose pas la question, est-ce que c'est un trésor national, mais est-ce que je veux l'acheter pour le Louvre ?
Je partage ce que dit Didier. J'aimerais même compléter. Bon, c'est vrai qu'il y a l'aspect expertise, mais il y a aussi l'aspect destination. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite ? Et donc là, il y a une part d'opportunité. Il faut que le conservateur aussi se prononce là-dessus. Est-ce qu'il est intéressant ou pas cet objet pour le patrimoine ? Donc il y a déjà cet aspect. Est-ce qu'il est finalement intéressant pour un grand musée parisien ? Et est-ce que vraiment on pose la question au musée de province ? Ça, c'est un premier aspect. Mais il y a aussi la question de l'optique monument historique. Parce qu'un tableau peut, par exemple, avoir un équivalent dans les collections nationales et être très important dans un château parce que, effectivement, c'est une redite par rapport à une œuvre qui est conservée dans un musée, mais il prendra tout son sens dans un contexte particulier autour d'autres œuvres. Et donc, il y a cette optique de la conservation in situ. D'où vient le tableau ? Est-il accompagné d'autres œuvres ? Appartient-il à un ensemble qui, à mon sens, n'est pas du tout pris en compte ? Et je pense que l'examen, justement, de ces trésors nationaux devrait être collégial, ce qui n'empêche pas que les meilleurs spécialistes soient présents, et que cette collégialité soit aussi paritaire, qui est à la fois des représentants des musées et des monuments historiques. Parce qu'un trésor national, finalement, c'est rien. C'est la loi de 41, c'est rien. C'est juste un filtre, c'est un filet, c'est un tamis pour savoir ce qui sort de France. Ensuite, il faut trouver une solution. Alors, ça peut être l'enrichissement des collections publiques, mais ça peut être aussi la création d'une servitude d'utilité publique par un classement. Le texte le prévoit expressément. Donc, ces deux logiques patrimoniales que sont l'enrichissement des collections publiques ou la préservation in situ doivent être représentées. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, je verrais bien quelque chose de collégial où on est aussi des représentants des monuments historiques. Sachant que les monuments historiques sont consultés, mais uniquement pour les éléments démembrés d'immeubles. Donc là, effectivement, ils donnent leur avis, mais ils peuvent aussi avoir leur avis sur un tableau qui provient d'un château de province et qui a toujours été là, par exemple.
Écoutez, je dirais d'abord, dans mon domaine, ça ne fonctionne pas si mal que ça. Et je vois mal un tableau d'un grand artiste de Marseille, par exemple, un grand Finson qui réapparaîtrait, qui serait vraiment le chef-d'œuvre de Finson, si tant est qu'un Finson peut être un trésor national. Si la question pouvait se poser, je vois mal le département du Louvre, ce serait dans la spécialité de Blaise Ducos, je le vois mal ne pas parler avec son confrère de Marseille ou de Montpellier. Mais pour rester quand même dans la logique du trésor national, je vous rappelle ce que vous disiez tout à l'heure, et à mon avis, il faut rester à ça. C'est une procédure tout à fait exceptionnel, qui s'intéresse à des œuvres majeures. Majeures. Majeures, ça veut dire majeures. C'est pas fait pour faire des affaires au musée.
Non, mais personne n'a dit ça. De toute façon, comme le dira Julien, c'est fait pour repérer des œuvres.
Voilà.
Et vous demandez ensuite, il y a un prix qui est demandé. Je vais prendre un exemple, tout simplement. Hein, et pas dans les tableaux anciens, dans les tableaux modernes. Mais on pourrait trouver dans les tableaux anciens également. Le grand département pour l'art du XXe siècle, c'est Beaubourg. C'est le centre Pompidou. Il y a eu, il y a très peu de temps, une vente Boutet de Montvel,
terrible,
avec un ensemble complet qui aurait pu, si le ministère de la Culture avait fait son travail, être éventuellement acquis en bloc pour faire un musée qui aurait attiré les Américains, parce que c'est un peintre très intéressant auquel les Américains s'intéressent beaucoup. Et en particulier, il y avait un tableau qui est l'autoportrait Place Vendôme que tout le monde s'accorde à reconnaître
une icône
comme une icône du genre de la peinture des années 30. Mais Beaubourg, le Centre Pompidou, on le sait bien, il suffit d'aller le visiter, n'expose rien de l'art déco. L'art déco n'existe pas, uniquement la modernité. Donc ça ne les intéresse pas. Il était évident qu'ils n'allaient jamais proposer comme classement au Trésor National une œuvre qui était manifestement un Trésor National. Il n'y aurait pas eu de spoliation, puisque c'était... il y a des estimations. Donc après tout, ensuite, il aurait pu être acheté à l'estimation. Mais on n'a même pas essayé, l'État n'a même pas essayé de le faire. Donc vous voyez que je veux dire qu'il y a des erreurs graves qui sont commises.
Mais ce n'est pas une erreur. Je ne vous suis pas du tout. Je pense réellement que la procédure de Trésor National doit rester très exceptionnelle. Et surtout, il faut que le message passe chez les propriétaires qu'elle est exceptionnelle et que ce n'est pas une menace pour eux, qu'au contraire, c'est une chance pour eux. À partir du moment où vous utilisez... La procédure de Trésor National, c'est une contrainte. J'aimerais qu'on en parle tout à l'heure, mais c'est une vraie contrainte.
Parlez-en maintenant, si vous voulez.
Qui, dans un cas que je connais très bien, est extrêmement lourde et coûteuse pour les propriétaires, et éventuellement très, très risquée. Donc, si vous voulez, elle doit rester très exceptionnelle. Sinon, vous allez faire peur aux propriétaires. Nous sommes autour de cette table, nous défendons le patrimoine. Je vous le redis, personnellement, je me considère comme un défenseur du patrimoine. Mais pour défendre un objet sur la défensive, où on va prendre des mesures exceptionnelles, ça doit rester... tout à fait exceptionnel. Et il faut que ce message passe. Dans l'esprit de beaucoup de propriétaires, ils sont encore dans la loi de 92. Moi, je vois encore arriver beaucoup de gens dans mon bureau qui me disent, dès qu'on leur dit « Ah, attention, ça c'est un tableau majeur, etc. »« Oh là là, attendez, dans ce cas, je repars avec. » Les gens ont toujours peur de l'administration. Moi, je me souviens qu'avant 92, j'arrivais à travailler en France parce que j'habitais à Londres, que je travaillais pour une maison étrangère. Beaucoup de maisons ne se seraient jamais ouvertes à un Français. Beaucoup de châteaux, beaucoup d'appartements parisiens, quand ils recevaient un concerteur de musée, ils décrochaient les tableaux comme dans le dîner de cons. Est-ce qu'on veut revenir à cette situation?
Julie, est-ce que ça doit rester une procédure très exceptionnelle ou pas?
On va rassurer quand même les propriétaires. Moi, j'ai quelques chiffres et justement, le problème, c'est qu'ils ne sont plus publiés parmi les chiffres clés, d'où notre demande conjointe avec la Tribune de l'Art, dont on reparlera tout à l'heure. Donc, j'ai des chiffres qui sont un peu vieux. On doit pouvoir en trouver d'ailleurs des plus récents, mais on va quand même les citer. En 2008, il y a eu 9393 demande de certificat de sortie du territoire. Donc pour ces objets déjà importants qui franchissent ces seuils, pour les tableaux, on a dit que c'était 150 000 euros. Sur ces 9393 objets, donc en 2008, 4 ont été reconnus trésors nationaux. Donc ça fait un taux de sortie du territoire de 99,95%.
On peut pas dire que ce soit trop...
Non, c'est bien. Alors, en 2009, 7876. Et donc là-dessus, on en a retenu 9. Donc le taux de sortie du territoire, donc de ces objets qui ont une valeur financière importante, qui ont un intérêt quand même d'art et d'histoire qui sortent de France, là, le taux de sortie est de 99,88%. Donc c'est vraiment, on peut dire que la loi actuelle existe très peu ou quasiment pas.
Et peut-être.
Donc il y a quand même.
Trop insuffisamment.
Insuffisamment. Et je dirais que ces chiffres sont quand même, moi j'ai fait une courbe, c'est quand même assez accablant, c'est difficile de le dire autrement. N'importe quel ministre ayant une courbe équivalente sauterait immédiatement. On lui dirait, écoutez, c'est pas possible. Même si on a effectivement une conception très exigeante du Trésor National, là on peut vraiment pas dire qu'on soit dans l'abus. Et c'est marrant parce que dans le domaine des monuments historiques, on a aussi cette espèce de mythe qu'on ne peut plus planter un clou dans son monument historique qui est équivalent à celui que vous décrivez. Donc là, il faut vraiment rassurer les propriétaires. L'usage qui en effet est extrêmement raisonnable et c'est un euphémisme. Il faudrait essayer quand même de trouver une solution pour retenir plus de biens.
Un peu plus, pas forcément. Si on arrivait à 0,5%, ce ne serait pas beaucoup. Et je ne pense pas que ça menacerait le marché de l'art. Parce que l'importance du marché de l'art et d'un marché de l'art qui marche bien en France me paraît tout à fait essentielle, comme vous le disiez, pour la sauvegarde du patrimoine. Mais sauvegarder le patrimoine, ça veut dire le sauvegarder un petit peu quand même.
Alors, je voudrais dire deux choses. La première, je n'accepte pas du tout votre raisonnement parce qu'il y a un autre ministre qui se met dans une position statistique encore pire que le ministre de la Culture, c'est le ministre de la Justice. Tous ces gens qui se promènent dans la rue, au fond, ils n'ont qu'une chance sur 1000 d'aller en prison. Est-ce que c'est acceptable? Parce que c'est une contrainte très lourde, le Trésor National. Et vous me dites, c'est pas très important, les gens devraient se rendre compte que c'est moins de 1%. Mais quand je les ai dans mon bureau, C'est pas du tout ce que j'entends, moi.
C'est moins de 0,1%.
Oui, moins de 0,1%. C'est très, très peu. Oui, mais c'est comme la chance d'aller en prison. C'est encore beaucoup moins. Mais c'est pas pour ça qu'on va durcir les qu'on va ouvrir les
votre prisons. Votre comparaison me paraît un petit peu spécieuse.
Mais vous mettez le prix. Non, mais attendez, vous mettez une contrainte très lourde, un manque de liberté à la circulation
lourde,
des objets.
Ah
oui, bon, on va en parler après.
On va en parler. Vous allez
oui,
nous expliquer
oui,
pourquoi
elle est lourde.
30 mois quand même.
Oui, elle est
bon,
vous allez nous expliquer pourquoi elle est très lourde.
Elle est lourde et elle n'existe pas à l'étranger.
Mais parce qu'encore une fois, je pense, elle est lourde parce que le ministère de la Culture, je suis désolé de le dire, une nouvelle fois, malheureusement, ne fait pas son travail. C'est-à-dire qu'une fois que c'est classé, on a 30 mois. Moi, ça me paraît tout à fait possible, mais il faudrait que dans 95% des cas, l'achat soit fait dans les 6 mois. Et là, il n'y aura pas de moins de problèmes.
Alors, s'il y a une procédure, effectivement, de mécénat, c'est peut-être plus compliqué de rassembler.
Honnêtement, quelqu'un qui veut vraiment.
On pourrait peut-être réduire ce délai, effectivement.
Mais il est beaucoup trop long, le délai. Évidemment, il est trop long. Il est trop long pour deux raisons. D'abord, parce que je vais vous dire pourquoi il est long. Il est surtout trop long parce que ça n'existe pas à l'étranger. En 92, qu'est-ce qu'on a voulu faire ? Bon, en Italie, tout le monde fraude. Est-ce que vraiment l'Italie, c'est l'exemple de ce qu'on veut
faire ? Personne ne dit si, je crois que ni Julien ni moi-même. Excusez-moi, on
et l'Italie,
elle
est en train de revenir sur cette.
Mais vous vous défendez très bien. Mais l'Italie n'est pas un exemple que je crois. Je pense effectivement, bien entendu, je pense effectivement qu'une législation trop stricte implique que les gens vont faire ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire qu'ils vont frauder.
Une
donc
fuite
ça
de patrimoine majeur.
Je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, comme le dit Julien, on n'est pas dans ce cas-là. Et je pense que même si pour certains objets, on était un petit peu plus strict, et dans bien des cas, moi j'ai plusieurs de vos confrères qui me disent cet objet-là, je ne comprends pas, il n'a pas été retenu du Trésor national. Et en plus, souvent, des fois, c'est des choses qui sont à 150 000, à 200 000, à 300 000, à 400 000, parce qu'on parle. Là, vous parlez où ça peut coûter très cher, ça peut être très long de trouver l'argent, c'est pour des objets à plusieurs millions d'euros. Mais c'est assez rare. Mais il peut y avoir des trésors nationaux à 150, à 200, à 300 000 euros, pour lesquels réunir l'argent, objectivement, n'est pas très compliqué avec le mécénat des 90%. Il faut rappeler que c'est 90% de déduction fiscale qu'une entreprise peut avoir pour le mécénat. C'est pas très cher. Le problème, je pense, mais c'est l'hypothèse que je fais, en tout cas, et que je vois, c'est que le ministère de la Culture, bon, il casse un objet, puis après, en gros, débrouillez-vous. Le Louvre prend son temps, tout le monde prend son temps, et finalement, au bout de 2 ans, on commence à s'inquiéter parce que les objets vont sortir. Alors là, on fait quelque chose. C'est un vrai problème. Le mécène pour le Louvre, c'est toujours le même, quasiment, ça va être AXA. Il y a très peu de mécènes, finalement, et je pense qu'il y a une recherche de mécénat du point de vue du ministère de la Culture qui est largement insuffisante. Et à part du Louvre également, et que finalement, on retient très peu de choses, et puis on achète très peu de choses, et qu'il y a quand même des objets, des trésors nationaux, à mon avis, qui sortent. J'en prends plein d'exemples dans la tribune de l'art, et quelque chose qui aurait pu être interdit. Mais sans que ça bloque, ça pourrait ne pas bloquer. Si on bloque quelque chose, si on interdit quelque chose de sortie temporairement, et si dans les 3 mois ou 6 mois, parce que ça ne va pas être des millions d'euros, on l'achète, ça ne bloquera pas. Et vous ne serez pas lésé, personne ne sera lésé.
Non, mais le...
On est d'accord,
mon expérience, c'est qu'en fait, où les choses se passent dans les 6 premiers mois, où elles se passent dans les 3 derniers jours. Moi, j'ai eu un tableau qui m'était réglé, j'ai reçu le chèque à 18h la veille de...
6 premiers mois,
est-ce que c'est
rare.
Acceptable ?
Non, bien sûr.
Est-ce que c'est
non,
acceptable ?
Non, c'est pas acceptable, on est d'accord avec vous.
Et en fait, en réalité, en 92, on a voulu se caler sur la loi anglaise, en fait. On a voulu, elle fonctionnait très bien, au fond. Je crois que l'administration culturelle française s'est rapprochée de ses collègues anglais à l'époque en disant, écoutez, vous êtes les seuls à avoir une protection qui semble fonctionner à peu près correctement. Et on s'est calé sur la loi anglaise quasiment intégralement. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'en Angleterre, c'est 6 mois renouvelables une fois, et nous, on est parti sur 30 mois. Les 30 mois, c'est trop long. J'ai un cas quand même très précis que vous connaissez.
Allez-y, développez-le peut-être, ça vous intéresse.
J'ai le cas de ce tableau du Caravage qui a été découvert dans une maison du Sud-Ouest. Ce tableau est dans une indivision familiale et il a été classé trésor national. Bon, c'est très bien. En soi, je m'attendais d'ailleurs à ce qu'il soit classé trésor national. À la limite, il n'aurait pas été classé trésor national.
C'est peut-être mieux même.
J'aurais été vexé.
Pour la valeur de l'objet. Ouais.
Bon, pour... Non. Mais le problème, c'est pas le classement trésor national, qui est plutôt. Mais classement trésor national, c'est pas une décoration que vous posez sur un objet ou sur un tableau. C'est un processus d'acquisition. Ce processus d'acquisition, je vois bien que comme il dure 30 mois, Eh bien, il s'est déjà passé un peu plus d'un an et pas grand-chose. Et j'attends une activité frénétique dans les derniers jours.
Mais oui, on est d'accord.
C'est trop long.
On est d'accord avec vous.
Et je vais vous dire quel problème ça pose. Ce tableau est dans une indivision familiale. Dans la mesure où vous faites une demande de certificat, vous sortez de la nuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'administration, y compris l'administration fiscale, parce qu'elle nous l'a demandé, a les noms des propriétaires. Si demain, des propriétaires disparaissent, je vous laisse imaginer le problème que ça va représenter. Est-ce que ça, c'est acceptable ?
Mais je pense, enfin, moi, pour ma part, je pense que ce n'est pas acceptable, mais qu'une fois de plus, malheureusement, on est obligé de renvoyer vers une certaine, je dirais le mot, incompétence ou insuffisance du ministère de la Culture, de la Direction des Patrimoines, qui ne prend pas la mesure de cela et qui devrait, d'abord, je pense qu'il devrait interdire davantage d'œuvres, de refuser plus de certificats. Et deuxièmement, une fois qu'il a refusé le certificat, effectivement, s'engager dans une démarche d'achat. Alors pour le Caravage ou le tableau,
c'est compliqué.
C'est compliqué parce que c'est un tableau dont on n'est pas certain à 100%. Dont certains pensent qu'il est de Caravage, d'autres pensent qu'il n'est pas forcément de Caravage. Il était courageux de le classer. Honnêtement, s'il ne l'achète pas, je pourrais les comprendre. S'il l'achète, je pourrais les comprendre aussi. C'est très compliqué. Le problème, c'est que si j'ai bien compris, il y a quand même 3 Caravage au Louvre. Il n'y a jamais eu de confrontation de votre tableau avec les Caravage du Louvre, alors que vous êtes quand même à quelques centaines de mètres du Louvre. Est-ce que ça a déjà été fait, ça ?
Non, mais ça va se faire.
Ça va se faire, mais ça aurait pu... On parle de rapidité, ça devrait se faire, ça aurait dû se faire, à mon sens, très rapidement.
Bah, ça a été fait, mais par des étrangers.
Oui, dommage. À Milan.
Je pense que le vrai problème, c'est l'absence d'anticipation. C'est-à-dire que ces tableaux, il faut les protéger en amont. Nous, on a une optique qui est très particulière, qui est celle du patrimoine contextuel. Là, on parle d'un Caravage, qui est un tableau, qui est c'est un monde en soi. Il n'a pas besoin d'être dans un lieu qui lui donne du sens. Voilà, il porte son sens lui-même. Donc, même statutairement, on ne se battra pas pour un tableau de Caravage. Ni,
on parle de sites et monuments de l'association.
Voilà, voilà. Nous, on s'intéresse vraiment à ces ensembles qui sont conservés in situ, dans lesquels, souvent, il y a un chef-d'œuvre. Un seul qui tire l'ensemble d'une collection. Alors dans une série de portraits de famille, il peut y avoir un tableau qui vraiment a une certaine importance du point de vue de l'histoire.
On peut prendre l'exemple récent d'une dispersion globale avec des tableaux de Giraudet, donc 2 ou 3 ou 4 œuvres auraient pu être classées trésor national. C'est le château de...
Alors c'est Grand Maison à Villepreux.
Villepreux, c'est ça. Donc j'avais écrit sur le site et franchement là il y a une énorme, à mon sens, une énorme erreur. Du ministère de la Culture qui n'a pas protégé cet ensemble.
C'est ça, alors que le propriétaire était quelqu'un qui était tout à fait bien disposé s'agissant du patrimoine, qui avait une conscience...
Le propriétaire, celui qui est décédé.
Voilà, celui qui est décédé, effectivement. Donc là, il fallait faire les choses en amont, aller voir ce propriétaire, lui proposer un classement. Ça aurait peut-être été fait, mais on a une réunion assez surréaliste au ministère de la Culture avec Daniel Alcouf et Jean-Pierre Samoyau, puisqu'il y avait aussi du mobilier. On a essayé de plaider la cause de cet ensemble patrimonial. Et ce qu'on nous a dit, c'est qu'en fait, c'était trop tard parce que maintenant, le catalogue était paru et que donc le marché avait engagé un certain nombre de frais et qu'on ne pouvait plus rien faire. Et toute la discussion a tourné autour de la question de savoir si on n'aurait pas pu signaler la chose à l'avance, alors que ce qu'il y avait dans ce château était de notoriété publique. Donc là, il y a vraiment un problème de repérage en amont. Et là j'ai encore rencontré dernièrement un propriétaire qui a un mobilier exceptionnel du XVIIIe siècle qui correspond à des boiseries de la même époque et qui est prêt à perdre une valeur financière significative pour attacher ce meuble à perpétuelle demeure. Mais personne ne lui a jamais proposé. Alors que c'est vrai, le marché de l'art, lui, a une démarche beaucoup plus efficace, il y a des publicités dans les journaux, des gens qui sillonnent aussi la France, des réseaux. Et le pauvre CAOA qui est l'équivalent
conservateur
des antiquités objets d'art, dont il faut rappeler qu'il est bénévole, c'est-à-dire qu'il est rémunéré au titre d'autres fonctions, n'a pas les moyens de faire ça. Parfois, il pourrait le faire. On peut quand même, pour Villepreux, en tous les cas, se demander où était le CAOA. Mais voilà, il faut que le ministère de la Culture fasse les choses, en tous les cas, en amont, et quand on en arrive au stade du Trésor national, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement en amont. Voilà, il fallait faire les choses.
Alors, on peut dire aussi qu'il y a
des choses... Mais il faut pas hésiter à rattraper les objets au dernier moment. Et c'est ça l'intérêt de ce filet qui est cette loi de 92.
On peut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent quand même. Par exemple, là, vous avez un autre exemple. Vous avez l'exemple du Caravage. Vous avez l'exemple de deux Fragonards, donc, qui ont été trouvés dans un château qui n'était pas connu avant. Donc, objectivement, il n'était pas du tout évident d'aller chercher ces Fragonards.
Ce sont des découvertes.
Des vraies découvertes. Vous avez demandé le certificat d'exportation, et là, le Louvre, le grand département du Louvre, a joué son rôle, comme je pense. Il l'a très bien joué, puisqu'il l'a dit. Je crois que, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être... Il pense que c'est des trésors nationaux, et ce sont des trésors nationaux, clairement. En revanche, ce ne sont pas... Alors, ça va me permettre d'aboutir à quelque chose, peut-être, une réflexion dont on n'a pas parlé, c'est le prix. Donc, ces tableaux sont des tableaux donc trésors nationaux que je pense, d'après mes informations, le ministère de la Culture, le Louvre, ils vont essayer de voir si un musée de province peut les acquérir. Alors, je parlais du prix, parce que vous parlez vous dites que les propriétaires ont peur, ils vont se faire spolier, etc. Or, il faut quand même reconnaître que dans bien des cas, le prix, d'abord, il est donné par le vendeur. Et dans certains cas, je pense par exemple à un dessin d'Ingres représentant une famille bien... Son nom m'échappe à chaque fois, peu importe. Mais un dessin qui était un petit peu insolé s'est vendu 1 million d'euros, alors que des dessins de la même provenance, en bien meilleure qualité, etc., sont vendus ensuite à Drouot 500 000 euros. Donc, et le classement n'a pas nui au prix, je pense. Et là, par exemple, ce qui se passe souvent, c'est que dans la vente de trésors nationaux, le prix, on s'aperçoit, est souvent parce qu'il est demandé souvent assez cher, et finalement ça se vend assez cher. Le prix des deux Fragonards, j'y reviens, 6 millions d'euros. Est-ce que, alors, c'est un prix, c'est une estimation. Est-ce que c'est, vous dites, c'est le prix normal, mais je me rappelle que récemment, le musée de Lyon a acheté deux trésors nationaux. Alors, c'est des trésors nationaux qui venaient de l'étranger, mais ils l'ont acheté avec la procédure trésors nationaux, qui se sont achetés les deux tableaux 1,5 million. Alors, pourquoi 6 millions d'euros? Et est-ce que, franchement, si quelqu'un l'achète à ce prix-là en France, est-ce que le vendeur aura été lésé? Je ne suis pas sûr.
Bon, s'il les achète 6 millions d'euros, le vendeur ne sera pas lésé. Mais heureusement, sinon, je n'ai pas fait mon travail. Moi, je suis là pour que le vendeur ne soit pas lésé.
Pourquoi ce prix?
Vous pouvez compter sur moi, Didier.
6 millions, pourquoi ce prix? Pourquoi ce prix par rapport à 1,5 million de tableaux qui sont vendus récemment? Qui ne sont pas forcément moins beaux et qui sont assez importants et qui ont été achetés 1,5 million avec la procédure trésor national. La différence paraît importante quand même.
Parce que les deux tableaux sont, à mon avis, dans le meilleur de l'œuvre de Fragonard dans ses paysages. Ce sont des tableaux formidables, dans un état exceptionnel, puisqu'ils ont pratiquement, ils n'ont pas dû changer de main depuis en tout cas probablement le milieu du 19e. Ils sont à peu près dans l'état où est le tableau du Caravage, qui lui aussi est resté protégé pendant 150 ans dans un grenier. Et ça, c'est vraiment très important. En plus, ils sont très grands, ces tableaux. C'est pas des petits tableaux, c'est des grands tableaux, des grands paysages qui sont
ceux de Lyon, je crois, effectivement.
Ils sont vraiment magnifiques. Et puis, ils ont leur provenance. Les tableaux ont été commandés par Bergeret de Grandcourt, qui était le grand commanditaire de Fragonard. Ça rend les tableaux, vous parliez tout à l'heure de l'aspect historique, ça les rend plus intéressants, si on peut dire, pour un musée français que pour un musée étranger. Ouais. Parce que Bergeret de Grandcourt en France, ça veut vraiment dire quelque chose. Ouais. C'est moins vrai pour un musée américain. Donc, si vous voulez... Mais, attendez, si on met ces tableaux demain en vente publique, ils vont faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire ils vont faire 4, 5 ou 6 millions, et ils feront peut-être plus. Il ne faut pas oublier une chose, quand vous faites une vente privée, et ça c'est vrai pas seulement pour les objets d'art, c'est vrai quand vous vendez votre maison, quand vous faites une vente privée, vous perdez l'avantage que vous avez toujours dans une vente publique, vous dire ça peut faire plus. La vente publique, elle est formidable parce qu'elle met tout le monde d'accord.
Ça peut faire moins aussi.
Ça peut aussi faire moins. Voilà. Donc c'est là qu'il faut avoir, après, un bon expert.
Mais objectivement, interdire deux tableaux de sortie, prenons-les de là. Les musées les interdisent de sortie.
Ils les retiennent. J'aime pas.
Oui, c'est vrai. Vous avez bien fait. J'utilise ce terme.
Non, mais j'insiste parce que
non, ils sont pas interdits de sortie. Bien sûr.
Dans l'esprit de nos clients.
Refus de certificat.
Ils parlent toujours d'interdiction. Il n'y a plus d'interdiction.
Si vos clients écoutent l'émission, ils comprendront qu'ils risquent pas grand-chose à part de pendant 2 ans et demi avoir une procédure. Qui, encore une fois, je suis d'accord avec vous, si on attend 2 ans et demi pour bouger, c'est trop long. Qui, en tout cas, pour ces deux tableaux-là, si vous vendez ces tableaux-là 6 millions à un musée, en quoi le vendeur aura-t-il été comment dire
lésée.
Lésée.
Non, pas été lésée.
En fait,
non,
cette procédure, je pense quand même que vous dites.
Elle est juste.
Donc, mais, non,
elle
peut... donc cette procédure, en fait, elle ne laisse alors, pas, je non. pense.
Elle peut être gênante pour quelqu'un qui a besoin immédiatement de liquidité. Voilà. Mais là, peut-être que le marchand aussi peut, pour des œuvres importantes, faire une avance. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais,
Les problèmes d'assurance aussi, éventuellement. Qui
bon,
peut,
non, non,
peut,
non. Dans ce,
ça
dans
ça ce... pose d'énormes problèmes.
Dans ce cas-là, effectivement, il peut, quand on a un besoin immédiat d'argent. Mais cela dit, il y a eu le cas, par exemple, d'un clavecin qui était convoité par le musée de la musique et qui était estimé, je crois, 3 millions d'euros et qui restait invendu à 2 millions d'euros en vente publique à Drouot. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette peur de
oui, parfois.
Alors, et puis il y a aussi la peur pour le ministre de la Culture de laisser sortir une œuvre et qu'ensuite on lui reproche la peur de faire une bêtise.
Qu'est-ce qui se passe quand le prix. Qu'est-ce qui se passe quand
donc,
le
c'est
prix
vrai que ça peut jouer.
Qu'est-ce qui se passe en fait parce qu'il y a une question d'expertise, contre-expertise, est-ce que vous pouvez nous dire
oui.
ce qui se passe quand vous dites 6 millions, l'État, prenons un exemple, vous dites 6 millions, l'État va vous dire c'est 4 millions.
L'État est protégé contre ça, hein, heureusement, parce que ça serait trop facile. Si vous voulez.
Oui.
L'État est protégé contre ça, ce qui n'était pas le cas dans la loi de 41.
Qu'est-ce qui se passe
Eh bien, l'État peut réviser le prix, c'est-à-dire il peut demander une révision du prix.
Oui, pas lui,
Comme dans le système anglais. Les Anglais peuvent aussi demander une révision du prix, on ne le sait pas, mais
oui.
ça c'est déjà...
C'est le troisième expert, c'est ça? C'est deux experts et ensuite...
L'État demande une révision du prix, c'est-à-dire qu'il dit le prix ne me paraît pas, me paraît pas suffisant. En général, il fait une offre écrite, et cette offre est refusée par le vendeur. Il peut l'accepter aussi, le vendeur.
Comme... Ça, c'est
le
tout début.
Vous êtes dans le cadre d'une négociation.
Bien
après
sûr.
Tout.
Oui,
vous êtes, dans une négociation, tout le monde est libre de dire oui ou
tout
non.
Fait.
Bon. Nous ne nous mettons pas d'accord sur le prix. L'État nomme un expert, le vendeur nomme un autre expert, et les deux experts sont censés tenter de faire une expertise commune. Moi, j'ai déjà été expert pour l'État. J'ai déjà défendu l'État contre un de mes confrères qui était...
Et, intéressant.
Mais non, c'est un très bon système.
Non, c'est
une sorte de conciliation, si vous voulez. Et où nous nous mettons d'accord sur un prix. Et nous mettons d'accord entre nous. On dit, écoutez, voilà, effectivement, oui, vous exagérez un peu. Allez, ça ne sera pas 6, ça sera 5,5. Et nous, tout le monde accepte le prix. Le prix s'impose à tout le monde.
Le problème, c'est finalement chacun a un expert, un peu comme son avocat, et que l'expert d'un des partis va être tenté de...
Oui,
et
c'est...
ensuite, on
ça,
en
c'est le jeu d'une négociation.
En tout cas, dans le texte, ça se fait peut-être en pratique, un troisième,
alors,
les deux experts...
Si nous ne nous mettons pas d'accord, et en l'occurrence, c'est ce qui s'était passé avec mon confrère, nous n'avions pas pu nous mettre d'accord, en fait. Et j'avais appelé mon confrère, je lui avais dit, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça, votre prix n'est pas raisonnable. Il m'a dit, c'est vrai, mais mon vendeur ne me laisse pas. Donc, nous ne nous sommes pas mis d'accord. Et dans ce cas, le tribunal de grande instance, le président du tribunal de grande instance, nomme un troisième expert qui seul, lui, donnera son avis. Son avis s'impose.
Mais est-ce qu'un expert est libre? Parce que vous êtes forcément... Vous êtes là pour... Vous l'avez dit, c'est normal. Vous êtes là pour défendre le marché également. Donc, est-ce que vous... Est-ce que l'expertise du troisième expert... Est-ce qu'on a vu déjà des cas où un expert va donner un prix beaucoup moins important?
Moi, quand je suis expert judiciaire, je ne suis pas l'expert d'une des parties, je suis l'expert du magistrat. Quand vous êtes nommé par un tribunal, nom d'un chien, vous défendez
personne. Mais est-ce que vous avez
vous
des cas...
Vous défendez la République.
Est-ce que, Julien, est-ce qu'il y a des cas où vous avez...
Alors, pas... Enfin, je...
je
Éric Turquin connaît mieux, c'est...
Non. En général, on ne va pas jusque-là. On va pas jusque-là.
Pourquoi? Parce que l'État veut pas aller jusque-là? Parce qu'il préfère renoncer, finalement? Parce que
oui,
ça se passe,
c'est
ouais.
arrivé. Par exemple, moi, j'avais convaincu l'État qu'effectivement, le prix était trop élevé. Ils ont laissé sortir les tableaux et ils sont toujours chez le propriétaire.
Parce que, en fait, je voudrais revenir sur un cas dont on a beaucoup parlé sur la tribune de l'art, qui prouve quand même qu'il y a un problème, un réel problème, à mon sens. C'est le cas des Rembrandt Rothschild, dont vous n'étiez pas partie prenante dans cette.
Voilà.
Donc, je rappelle que ces deux tableaux. Qui appartiennent à Éric de Rothschild, à son frère en indivision, je crois, sont proposés à la vente en France. Donc le ministre, évidemment, il demande, je crois que c'est Christie's qui est l'intermédiaire, qui demande un certificat d'exportation qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'on considère que ces tableaux ne sont pas des trésors nationaux. C'est important du point de vue de l'histoire et de l'art. Bon, on connaît, on sait, j'apprends cela par des informations... Et donc, je sors mon article, ça commence à parler, etc. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ces tableaux qui ont eu leur certificat d'exportation ne peuvent plus être interdits de sortie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour que la France et les Pays-Bas puissent les acheter en commun, on va classer trésor d'importance patrimoniale majeure un des deux tableaux qu'on pourra acheter avec 90% de... Et c'est la Banque de France qui l'achète. C'est quand même invraisemblable de dire que les mêmes personnes disent ces tableaux ne sont pas d'importance patrimoniale majeure, et qu'ensuite, parce qu'on va trouver l'argent, parce qu'on s'est bougé enfin, parce que là, en fait, l'État ne s'est pas bougé, on va dire que ce tableau est d'importance patrimoniale majeure. Il y a quand même une preuve de dysfonctionnement évidente que peu de gens ont signalé. Ouais. Enfin, c'est évident.
Oui, qu'il y a les mêmes, effectivement, les mêmes critères, sauf qu'en principe, cette procédure est réservée aux trésors nationaux qui sont à l'étranger. Ça, c'est l'apport, c'est Jean-Jacques Ayagon qui a créé ce petit supplément à la loi mécénat qui est très utile. Mais oui, effectivement.
Parlons de l'étranger. Parce que vous voyez, vous me disiez, Julien, tout à l'heure, il faut anticiper, il faudrait que le ministère anticipe. Mais anticipons sur l'anticipation. Nous sommes en permanence dans ces affaires, ces discussions, à commencer par celles que nous avons maintenant. Nous sommes sur la défensive. Nous regardons ce qui sort et nous ne regardons pas ce qui rentre. Nous ne regardons pas la vraie raison pourquoi ces gens vendent. Villepreux, il n'y avait pas d'autre solution. Vous avez tout à fait raison en disant mais il fallait trouver une solution avant. Mais ce n'est pas une fois que le catalogue est imprimé, là, il est vraiment beaucoup trop tard. Il faut réfléchir.
Moi, je me refuse à...
À la limite, le coût du catalogue pouvait être pris en charge dans la négociation.
En tout cas, il est trop tard pour anticiper. Si vous...
Là, effectivement, c'est un échec.
Pour revenir à mon raisonnement. Et il faut... Vous savez, tant que nous prendrons des mesures seulement négatives pour la protection du patrimoine, nous allons perdre. Nous allons être sur la défensive, donc nous allons prendre raclée sur raclée. Et tous les mois, il y aura un article catastrophique dans la Tribune de l'Art, nous disant encore tel chef-d'œuvre. Il serait beaucoup plus intéressant de réfléchir à une, comme on l'a fait par exemple pour les monuments historiques, avec la loi Malraux, avec les travaux qu'a fait Jacques Lang avec la demeure historique, où il a revalorisé la propriété des châteaux. Où on est. Il faut, si vous détruisez la valeur, on détruit tout. Ce qu'il faut, au contraire, c'est construire de la valeur. Il faut valoriser les objets d'art. Il faut que les gens aient moins envie de les vendre, qu'ils aient envie de les donner, de les laisser à leurs enfants, de les garder dans leur patrimoine. Nous parlons de la défense du patrimoine. Mais la première défense du patrimoine, ça serait de supprimer la TVA à l'importation, qui est un véritable scandale. Ce qui est beaucoup plus important que tout ce dont nous discutons maintenant. Écoutez, on a retrouvé la
TVA à
l'import. J'ai un scoop pour vous. On a retrouvé la couronne de Charlemagne dans un coffre en Suisse, où elle dormait depuis 300 ans, à l'époque Louis XVI, quelqu'un l'a emporté là-bas pour la protéger de la Révolution. Rassurez-vous, c'est pas le cas. Enfin, malheureusement, c'est pas le cas. On l'a retrouvée. Et ses propriétaires, les détenteurs, les propriétaires de cette couronne, s'adressent à un de mes confrères experts en bijoux.
Vous dites que c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment retrouvé.
Non, on l'a pas retrouvé.
D'accord, ce que je ne comprenais plus, c'est qu'il n'était pas le cas.
On l'a pas retrouvé.
Nous sommes dans l'hypothèse, on n'a pas retrouvé la couronne de Charlemagne.
Et au XVIIIe siècle, on ne déposait pas les objets dans les coffres en Suisse pour se protéger de la Révolution française.
Vous m'avez bien lu, là.
Mais on retrouve la couronne de Charlemagne en Suisse ou au Japon, je ne sais pas, à l'étranger. Quel est le fou qui va l'introduire en France en se faisant taxer de 20% pour un objet qui ensuite, il aura du mal à ressortir. Personne ne va faire ça. Donc la première défense du patrimoine, si on veut vraiment défendre le patrimoine, c'est de revenir à un système qui était celui des Anglais jusqu'en 1992. Ils avaient ce qu'ils appelaient le special scheme, qui faisait que le special scheme, c'était tous les objets d'art étaient sortis, c'était considéré comme des marchandises anormales, si on peut dire, et que vous n'aviez pas de taxe à l'exportation.
La taxe d'importation.
Mais vous n'avez pas de taxe.
Alors, elle ne fonctionne qu'hors de la CE.
Hors de la CE.
C'est-à-dire que ceci, demain, quand l'Angleterre, un objet rentrera en Angleterre, il subira la taxe d'importation.
Il subira une taxe d'importation. Mais la taxe d'importation, c'est ce qui fait. Aujourd'hui, les grands vendeurs, ce sont les Japonais. C'est moins maintenant, mais dans les 15 dernières années, les grands vendeurs internationaux, c'est les Japonais. Parce que les Japonais, entre les années 80 et 90, ils étaient les grands Arabes de l'époque, ils achetaient tout. Et puis ensuite, il y a eu la crise japonaise, ils ont dormi un petit peu là-dessus pendant 10 ans. Et à partir des années 2000, ils ont commencé à sérieusement revendre. Eh bien, très peu de ces ventes japonaises se sont faites en Europe, et a priori pas en France. Quelques-unes se sont faites à Londres, mais la plupart se sont faites à New York. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de taxes d'importation.
Alors, c'est très intéressant, effectivement, ce que vous dites. Il ne faut pas oublier qu'en tous les cas, en valeur, il y a un flux d'œuvres qui sort de France. Il y a aussi des œuvres qui rentrent.
On parle toujours de celles
mais,
qui sortent.
C'est vrai que celles qui sortent, là j'ai quelques chiffres sous les yeux qui sont un peu anciens. Hein. On va dire que 4000... on va dire que si 4000 sort, eh bien, on a 2000 qui rentrent. Donc, déjà, c'est pas, on n'est pas dans le même ordre de grandeur. De toute manière, le patrimoine, en tous les cas, la conception qu'on en a, qui est une conception du, voilà, du patrimoine contextuel, c'est pour nous une stratification. Donc la stratification, à partir du moment où on la dérange, c'est terminé. On ne peut pas refaire les choses, c'est pas en faisant revenir des œuvres en France qu'on va les recontextualiser et recréer cette stratification qui est cette accumulation patrimoniale qui va faire l'intérêt, par exemple, d'une demeure meublée. Donc la destruction, elle est malheureusement, elle est irréversible. Hein. Quand on dérange, justement, c'est voilà, il y a régulièrement, quand on vend par exemple les collections du château de la Roche-Guyon ou du château de Dampierre, ce sont des accumulations sur des générations et des générations. Et ça, même si il y a quelques œuvres qui rentrent ensuite en contrepartie, ça ne refera pas cette stratification à l'envers.
Ou pour Dampierre, une sculpture qui va être achetée par le musée d'Orsay, tant mieux. Parce que finalement, heureusement, elle va rester en France, mais n'empêche qu'elle sera perdue pour le contexte, parce qu'elle a été commandée pour Dampierre, et c'est un côté complètement absurde, finalement, de dépenser de l'argent du patrimoine. Enfin, c'est un peu choquant, quelque part.
Tout à fait, mais voilà, il y a des choses qui sont quand même irréversibles. Alors, tout dépend de quel patrimoine on parle. Vous parlez d'objets qui, effectivement, ont une telle valeur, qui n'ont pas besoin d'un contexte particulier. Voilà, il faut quand même, je pense, prendre ça aussi en considération.
C'est-à-dire que vous parlez d'un cas particulier, qui est celui qui vous intéresse, qui est celui des ensembles mobiliers.
Statutairement, voilà. On ne peut s'intéresser qu'à ça.
C'est un cas très particulier, tout de même.
Très
dans mon domaine...
Je représente tous les autres cas également, parce qu'on ne m'intéresse pas qu'aux objets in situ. Monsieur dit, Julien, vous parlez aussi quand même de manière plus large, avant notre nom propre,
oui.
Pour des objets qui sont hors contexte.
Non, mais il y a aussi des chefs-d'œuvre hein, dans justement ces accumulations d'œuvres, et c'est ça qui fait l'intérêt, c'est que le chef-d'œuvre va tirer des œuvres qui sont plus moyennes, et que l'ensemble prend un sens qui fait tout son intérêt patrimonial.
Mais le fait de... Vous avez raison, bien sûr. Mais d'abord, il faut réfléchir à une solution pour encourager les gens, les propriétaires de la Roche-Guyon ou d'un autre château, de les avoir encouragés à conserver les choses.
On a des propositions pour en parler tout à l'heure.
J'ai lu vos propositions et ça va dans le bon sens parce que c'est positif.
Alors dites-nous, quelles propositions ? Terminé, et après on
dira. Mais je ne suis pas certain que ce soit une mesure est bonne pour le patrimoine que de taxer de 20% l'importation d'une commode de Versailles.
On est d'accord, ça. Alors là, tout le monde est d'accord, je pense.
On ne peut pas à la fois.
Mais
se plaindre des exportations...
C'est pas ça qui va résoudre
le
problème. Là, je partage tout à fait... il vaut mieux être conquérant que toujours sur la défensive.
Mais bien sûr,
mais
sinon vous perdez.
Il ne faut pas non plus faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils vous fassent. Voilà. Mais donc, il faut être raisonnable. Il faut aussi respecter le patrimoine des autres pays.
Alors, avant de passer à vos propositions, parce que les solutions, c'est un petit peu c'est la conclusion, j'aurais aimé... Oui.
Alors oui, non, j'avais une question à poser à Éric Turquin, mais ces fragonards qui ont été trouvés, je crois, dans un château de Normandie, moi, je brûle de savoir avec quel autre tableau ils étaient. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là ? Depuis combien de temps étaient-ils là ? Pourquoi sont-ils arrivés là ? Est-ce qu'il y avait un ensemble autour de ces tableaux qui peut-être, je ne sais pas, a été vendu différemment à des marchands, pas en vente publique ? Quid de l'ensemble qui était probablement autour de ces tableaux ? Quand même, des tableaux de grande qualité, il devait y avoir des objets qui allaient avec. Moi, c'est ça qui m'inquiète dans le cas que...
Vous êtes un homme du mobilier, Julien Lacaze.
Non, pas seulement du mobilier.
Les tableaux font rarement partie d'un ensemble. Et quand ils font partie d'un ensemble, il y avait le cas du château de Voray, par exemple, des outreries du château de Voray, mais c'est très très rare en France. D'abord parce que la France est un pays qui a été bouleversé, que les tableaux ont toujours valu très cher, donc ils ont toujours circulé, que les Français ont été des très gros importateurs de tableaux au XVIIIe et au XIXe siècle. Au XVIIIe, ils étaient les plus grands importateurs au monde. Et au XIXe, dans la deuxième moitié du XIXe, ils ont réimporté massivement des tableaux. Donc vous avez des ensembles, on va dire, disparates, qui sont des collections qui sont pas des collections. C'est très rare de voir un ensemble complet dans ma spécialité.
Complet, évidemment, mais là en l'occurrence, c'était une collection qui a été formée au XIXe siècle.
Oui, hein. Mais c'est de pièces. D'abord, les propriétaires de ces tableaux.
Donc vous avez
pas...
vu l'ensemble sur place.
Pas moi, mais Thaddée Prat de Tajan les a vus. Et j'ai vu des photos de l'ensemble, puisque j'ai posé ce genre de questions avant que vous me les posiez. Parce que j'ai essayé de reconstituer. Bien sûr, parce que la première des choses qu'on fait quand vous trouvez un objet important, c'est de reconstituer son pédigré. Mmh. Et mon expérience de vieille expert en tableau, c'est qu'il faut poser ce genre de questions aux clients avant de leur dire la valeur des objets, de façon à avoir des vraies réponses, spontanées, sincères. Mmh. Et en fait, nous avions posé les questions et les clients ne savaient pas comment ces tableaux étaient arrivés dans leur famille. Absolument pas. D'accord. Ces tableaux n'avaient pas de valeur. Ça veut dire très probablement qu'ils sont arrivés dans leur famille à une époque où ils n'avaient pas de valeur. Et Fragonard, avant la vente Goncourt, avant 1880, ça valait proche de zéro.
Alors, simplement, les ensembles existent quand même. Hein. On peut parler, si vous voulez, des collections de Vergennes hein, qui ont été vendues récemment en 3 ventes successives. Il y avait tout un ensemble.
Oui, c'est
tout un ensemble.
Il y avait un fil dans la
collection. Là, il y avait un fil.
Dans la collection, dans les objets Vergennes.
Ça a commencé à Bourges hein, en 2014. Du fils du diplomate, 2 tableaux de Van Gorp. Hein, je crois que vous étiez l'expert. Donc, ça, c'était en avril 2014. Décembre 2014. On a le tableau de représentant Louis XVI par Calais, mais qui n'était pas seul, hein, qui était avec un Gustave Lundberg qui représentait le roi de Suède et qui avait été offert à Vergennes alors qu'il était ambassadeur de Suède. Il y avait aussi un Antoine de Favret, qui était une turquerie qui avait probablement été peinte sur place lorsque Vergennes était ambassadeur en Turquie. Donc tout ça était un ensemble. Et ensuite, il y a eu 3e vente, cette fois-ci, par Maître Rouillac, la vente du portrait par Calais de Vergennes lui-même qui a en définitive été acheté par le château de Versailles, qui a aussi acheté le Calais qui était entièrement de la main de Calais, donc le portrait de Louis XVI, mais les autres œuvres ont disparu. Et cet aspect justement qui permettait de situer Vergennes dans sa carrière de diplomate et aussi dans sa famille, puisqu'il y avait le portrait de son fils. Tout ça a disparu. Alors, 2 tableaux ont été achetés par le musée de Versailles. Mmh. Il y a les articles qui correspondent sur la Tribune de l'Art. Mais l'ensemble a été perdu. Et le ministère de la Culture, que s'est-il passé? Cette première vente, il ne se passe jamais rien à l'hôtel des ventes de Bourges. On va sortir 2 tableaux comme ça de grande qualité qui représentent le fils du comte de Vergennes. Et on vous signale qu'ils sont restés dans la famille des modèles par descendance. Là, normalement, le ministère de la Culture devrait intervenir, devrait dire, il se passe quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres œuvres autour de celle-là, et ce cas démontre qu'effectivement il y avait autre chose.
Et est-ce que les vendeurs seraient spoliés? Non. Pourquoi? Parce qu'on est dans des prix qui sont pas énormes,
c'est
pour lequel ça pourrait être trésor national. Le prix,
on
peut trouver des mécènes.
C'est pas des trésors nationaux,
si.
Soyons sérieux.
Ah bah si.
Mais non.
Au point de vue de l'histoire,
si.
C'est pas parce qu'un objet est intéressant, c'est pas parce qu'il est passionnant qu'il est un trésor national.
Non.
Est-ce une
qualité picturale. Attends, et intérêt historique.
Je les ai défendus, ces tableaux, puisque j'étais l'expert de la vente. Donc, si vous aviez voulu les acheter, je vous aurais certainement dit qu'ils étaient très beaux. Mais est-ce que c'est une œuvre majeure?
On est parfaitement.
Historiquement, si.
Ah, si. Je pense qu'historiquement,
c'est majeur. Après,
vous voyez qu'on n'est pas d'accord. Donc, je pense qu'une personne seule qui doit dire c'est un trésor national ou non ne sera pas forcément d'accord.
Ce qui serait plus intéressant, c'est de donner aux propriétaires de ces objets une motivation pour ne pas vendre. Ce qui serait plus intéressant, c'est de les remercier d'avoir gardé ces objets pendant 250 ans.
Bien sûr,
c'est un peu tard.
Au lieu de les critiquer. Non, mais vous voyez,
bien sûr, c'est pas une critique.
Les propriétaires d'objets aujourd'hui, il faut quand même prendre leurs dépenses.
Oui.
Vous avez des gens qui entretiennent des énormes châteaux qui sont très lourds.
Mais c'est pas du tout.
On propose d'ailleurs des solutions.
Quand ils veulent vendre, tout le monde leur tombe dessus. Alors que vous savez, en l'occurrence, je ne les ai pas rencontrés parce qu'ils nous sont arrivés à travers le commissaire Préseur, mais j'ai eu quand même quelques échos, puis je les ai croisés au moment de la vente. Croyez-moi, les gens qui vendaient ces objets ne vendaient pas de gaieté de cœur.
Alors, juste une chose, ce qui prouve finalement, on est à la limite, effectivement, trésor national, pas trésor national, on n'est pas d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a une question qui peut se poser. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, finalement? Là, on rentre dans les solutions, je ne voudrais pas trop rentrer dans les solutions parce que j'ai encore quelque chose à dire sur le. Mais peu importe. J'ouvre la question. On pourrait très bien imaginer une procédure qui serait différente, qui ne bloquerait rien, mais qui voudrait que 2 mois avant la vente, 3 mois avant la vente, soit bien prévenu le ministère de la Culture qu'il y a un ensemble qui va être vendu, ce qui lui laisserait 3 mois pour éventuellement faire acheter ça par des musées. Ça serait par exemple une solution possible et pour que ça reste un ensemble. Parce que deux tableaux ont été achetés par Versailles, ça n'aurait pas forcément coûté extrêmement cher d'acheter les trois ou quatre tableaux qui allaient être ensemble.
Non, rien du tout. Mais on n'est pas dans la même optique. Parce que là, on est dans une optique muséale et l'optique contextuelle est complètement laissée de côté parce que, justement, l'administration des monuments historiques n'est pas aux manettes à ce moment-là. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que du point de vue économique, là, on avait un ensemble majeur, c'est-à-dire que là on pouvait faire venir des touristes, c'est quand même Vergennes, quelqu'un qui a eu un rôle important dans la guerre d'indépendance américaine, on peut faire venir des Américains, même chose avec la collection de Rochambeau, il s'est passé exactement la même chose, il y a eu trois ventes successives, on commence par le portrait de Washington, ensuite les gouaches de Von Berenberg, après les archives et le mobilier.
C'est l'ensemble qui est très ancien.
Tout ça absolument terrible, parce que évidemment, de mettre ce calais et ce portrait de Vergennes à Versailles n'apportera pas un visiteur de plus à Versailles. Non. De même que la table de Téchen ou le surtout du duc de Luynes qui ont été arrachés entre guillemets au château de Breteuil et de Dampierre n'apporteront pas un visiteur supplémentaire au musée du Louvre. Alors que les maintenir in situ, ça a vraiment un sens, y compris économique, parce que ça fait vivre le salon de thé, le restaurant, le taxi, et puis c'est la fierté de tout un village. Il faut maintenir des chefs-d'œuvre à la campagne. Ça, c'est vraiment, c'est un petit peu le cœur de ce qu'on aimerait dire d'ailleurs à l'actuel ministre de la Culture, on lui a dit. Et ça a vraiment un sens.
Avec le musée Rosenberg, le musée Poussin aux Anglais, voilà, c'est ce qu'on aura.
Patrimonial et économique.
Il faut, comme vous le disiez justement tout à l'heure, il faut anticiper. Et c'est au niveau, il faudrait chercher à faire ce qu'a fait Malraux avec sa loi pour les quartiers classés.
Tout existe.
Qui a été sensationnel. Quand j'étais enfant, moi je vis d'un milieu où il y avait des objets, des immeubles classés. La dernière des choses qu'on voulait faire, c'était être classé, parce que c'était une source de soucis. Aujourd'hui, je vois les publicités de Féo, et ils annoncent immeuble classé. C'est-à-dire, ça fait partie de la valeur de l'immeuble. À partir du moment où vous êtes arrivé là, vous avez gagné. Ce qui est désolant, c'est de voir que les propriétaires de châteaux, aujourd'hui, ils ont envie de vendre. Et il faudrait...
Alors, ils n'ont pas le choix. Souvent, ils n'ont pas le choix.
Mais il faut... On peut réfléchir à des solutions pour les encourager
alors,
à garder leur
attendez,
château.
Attendez, on a déjà entamé un peu les solutions. J'aimerais quand même, avant de passer à la conclusion, et ce que vous venez de dire là, sur la question trésor national, pas trésor national, ça pose débat. C'est pour ça que nous, on aimerait savoir, en tout cas la Tribune de l'Art, qui dans ce combat est assez proche de sites et monuments, indépendamment, on discutait, et puis finalement, on a mené une démarche qui se complète en fait, qui est assez proche. La Tribune de l'Art a demandé au ministère de la Culture de pouvoir avoir, parce que je trouve que c'est très intéressant de lire, j'en ai lu quelques-uns de manière off, des comptes rendus de la commission des trésors nationaux qui discutent pourquoi telle ou telle chose est un trésor national ou pas, et c'est très intéressant à savoir, mais c'est complètement secret. Parallèlement, donc moi j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir cela. Ça m'a été refusé, en fait, par le ministère de la Culture. L'ASPEF a demandé la même chose et a demandé en plus, ce que j'aurais pu faire aussi, puis que j'ai renoncé à faire, puisque je me suis aperçu après qu'ils l'avaient déjà fait, je ne l'ai pas fait. Ils ont demandé également d'avoir la liste, en fait, des demandes de certificats. Alors, avec un certain nombre en disant, on n'a pas besoin de connaître le propriétaire, peu importe, mais la plupart du temps...
Souvent, il n'y est pas, hein, c'est chenu.
Le propriétaire n'est jamais.
Heureusement.
Donc, en ayant ça, on sait simplement ce qui est demandé et ce qui est autorisé. On ne sait finalement qu'une œuvre est vendue, que quand elle passe aux enchères, donc ça, on sait forcément que si elle sort, qu'elle est vendue, donc elle a eu son certificat de sortie. En revanche, on ne sait pas quels sont les objets pour lesquels c'est demandé. Ça serait tout à fait logique. On a... je crois que
et les statistiques, on a demandé aussi les statistiques.
Voilà, l'ASPEF n'a pas eu de réponse. Moi, j'ai eu une réponse parce que j'ai insisté auprès de la communication qui était non. La direction du patrimoine ne voulait pas le donner. Donc, nous sommes intervenus auprès de la CADA, commission d'accès aux documents administratifs. La loi donne aux citoyens la possibilité de contester.
Ce sont
des documents administratifs. La CADA a répondu que comme la décision est prise et que comme ce sont des documents administratifs, nous avions l'autorisation, le ministère de la Culture devait nous les donner.
Elle nous a donné quasiment, oui, totalement.
Nous avons envoyé chacun une lettre recommandée à la présidente ministre. Nous n'avons eu aucune réponse. Et nous demandons à nouveau à la nouvelle ministre. Nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire devant le tribunal administratif, pour faire valoir ce droit à avoir ces documents. Mmh. Mais il est quand même invraisemblable de la part d'un ministère de la Culture,
vraiment...
et je dirais de la direction des patrimoines.
C'est vraiment étonnant. On va voir si la philosophie de la ministre actuelle change.
Ouais, on est quand même au niveau de la direction des patrimoines. Qui refuse obstinément toute transparence sur cette question des trésors nationaux.
Et de déférer un avis de la CADA, qui est quand même, normalement, on suit toujours l'avis de la CADA.
Et donc là, on pourrait savoir, fascinant. En fait, on pourrait discuter, et là, il pourrait y avoir un vrai débat sur ça, c'est un trésor national, ça, c'était pas un trésor national. Et pour terminer sur cette question, trésor national, pas trésor national, ça prouve qu'une seule personne peut dire ça c'est un trésor national, une autre personne dira non c'était pas ça, c'est pas un trésor national. C'est pour ça qu'une décision collégiale qui pourrait être faite à une demande, qui pourrait être très rapide avec les moyens actuels, on peut très bien avoir la demande via internet tout de suite, on peut très bien faire une réunion.
Oui, tout à fait, il faut dématérialiser.
Dématérialiser ça, de toute façon, on peut très bien dire oui, non, etc. Si la personne n'est pas jolie, tant pis, on ne sait pas ce qu'elle veut. Mais on pourrait très bien décider de manière collégiale avec 4 ou 5 spécialistes du domaine, incluant des gens qui ne sont pas seulement au Louvre, mais également en province. On pourrait très bien faire cela de manière plus simple, parce que c'est vrai que c'est difficile de savoir ce que c'est qu'un trésor national.
Et des représentants des monuments historiques aussi, pour qu'on ait la double optique, hein, musée et conservation contextuelle.
Est-ce que un mot là-dessus ou sur cette démarche, qu'est-ce que ça vous évoque
Ce qui est important pour moi, j'espère que j'ai réussi à faire passer le message, en fait. Je pense que puisque je représente l'horrible commerce ici. Hein, mais...
La tribunale n'a jamais été dans cette optique de dire du mal du commerce.
Je crois que ce qui est vraiment très important, si nous voulons vraiment protéger notre patrimoine, c'est de rétablir, de maintenir et dans certains cas de rétablir la fluidité des rapports entre l'État et ses citoyens, entre l'État et les propriétaires de monuments historiques. Tant que nous n'aurons pas cette fluidité, un dialogue permanent avec la demeure historique, avec les vieilles maisons françaises, avec, d'une façon générale, même des gens comme nous, qui ne sommes pas forcément des destructeurs du patrimoine à tout craindre. Je pense que tant que nous n'aurons pas rétabli des rapports de confiance, de dialogue permanent, notre patrimoine sera mal parti et nous aurons réunion article négatif sur article négatif chaque fois qu'un objet va sortir. Vous m'excuserez presque la vulgarité de la comparaison. Mais
nous vous excuserons.
Vous avez un enfant qui a la rougeole. Vous avez un premier médecin qui va soigner pustule après pustule. Et puis vous avez un autre médecin qui est un nouveau médecin, qui réfléchit et qui trouve la dose de pénicilline qu'il faut et on n'a plus besoin de soigner.
Pénicilline pour la rougeole, je ne suis pas certain que ce soit bon. ça ne sonnait pas comme une conclusion, mais je ne veux pas tout à fait qu'on conclue encore, puisque Julien, vous avez des propositions à ces monuments, en tout cas sur cette question d'ensemble et qui touche de près aux trésors nationaux.
Oui, effectivement. C'est vrai qu'on est parti du régime qui était applicable pour les dons faits au musée, qui est assez favorable. Quelqu'un qui donne un tableau qui est dans son salon au musée du Louvre va pouvoir déduire de ses impôts 66% de la valeur de l'objet. En revanche, cette même personne qui consent à un classement au titre des monuments historiques du même tableau qui est au mur de son château depuis toujours, lui n'aura droit à rien et perdra. Alors là d'ailleurs, je serais assez intéressé de connaître le 50% de la valeur de la toile. Est-ce qu'on peut quantifier ça?
C'est très variable parce que vous avez des objets qui ont un marché franco-français, qui se vendent même peut-être plus cher en France parce qu'ils sont, ils sont classés, donc c'est un signe de qualité. Je pense à certains éléments de mobilier français du 18e, dont le marché est en France, à certains tableaux français du 18e.
Pour les tableaux, en tous les cas, on ne peut pas...
Si vous avez un tableau hollandais dont le marché est plutôt à l'extérieur, évidemment, ça, vous allez avoir un écart beaucoup plus important. Donc, je dirais que pour certains objets qui ont un marché en France, il peut y avoir une décote de l'ordre de 20%. Par contre, dans certains cas, la décote... Regardez le cas du tableau de Van Gogh. Van Gogh n'a pas de marché en France. Il n'y a pas un acheteur français pour cet artiste. Donc, à la fin, même quand ce tableau est arrivé sur le marché, on a dit qu'il était faux, etc. Tout simplement, il était dans un marché décalé. Il n'avait plus de valeur parce qu'on avait détruit sa valeur.
D'accord. Bon, là, je reprends le fil. Donc, effectivement, la personne qui consent au classement de cet objet va perdre... effectivement une certaine somme d'argent puisque la clientèle internationale ne pourra pas l'acquérir. La personne qui consent à un classement avec maintien in situ, c'est-à-dire qui attache ce tableau à perpétuelle demeure, la perd peut-être 80% de la valeur de l'œuvre. Ça valorise peut-être un petit peu l'immeuble, mais c'est quasiment dérisoire. Donc il faudrait que cette perte puisse être également déduite de l'impôt sur le revenu. 66% de cette perte puisse être déduite de l'impôt sur le revenu. Ce ne serait que justice pour équilibrer justement cette conception conceptuelle de la préservation du patrimoine et muséale, qu'on ait à peu près les mêmes avantages. Et surtout, il faudrait qu'on ait l'équivalent de la dation, c'est-à-dire que lors d'une succession, on puisse, les héritiers puissent consentir à un classement avec maintien in situ, et que la dévaluation, qui a été énorme, à mon avis, de l'ordre de 80%, puisse être utilisée pour payer des impôts. Et là, effectivement, on anticipe et on maintient des œuvres en place. Et voilà, et même chose pour le dispositif des trésors nationaux. Une grande entreprise, par exemple AXA, aurait pu aider à payer la servitude d'attachement à perpétuelle demeure de la table de Téchen pour qu'elle reste à Breteuil, ce qui économiquement a beaucoup plus de sens que de la mettre au Louvre, et peut-être aussi patrimonialement, puisqu'elle est dans un contexte parmi d'autres objets qui l'ont connu. Voilà ce qu'on demande. Donc c'est une forme de symétrie, et que la logique monument historique ne soit pas toujours le parent pauvre du patrimoine. On a vraiment à y gagner à tout point de vue.
Est-ce que exceptionnellement vous avez eu une réponse de la part du ministère de la Culture, de la Direction des Patrimoines à cette proposition?
Alors, pour le moment, pour tout vous dire, on ne l'a pas encore envoyé. On l'avait envoyé aux différentes équipes. On a eu une réponse des différents candidats, mais qui n'était pas dans l'analyse précise de cette proposition. Donc là, on a laissé la ministre s'installer, et on va évidemment lui renvoyer nos 12 propositions, qui sont en ligne d'ailleurs sur notre site. Vous tapez SPPEF ou site et monument sur Google, et vous avez accès à ces 12 propositions qui concernent justement ce patrimoine contextuel.
Alors, en guise de conclusion, est-ce que vous avez un mot de conclusion pour...
Alors, je vais laisser Éric Turquin.
Mais Éric Turquin va conclure, justement. Donc, peut-être que... Ce que vous souhaitez, c'est qu'en fait, vos propositions soient suivies, en fait. Et qu'on puisse obtenir également l'accès aux documents qu'on a demandé.
Oui, ça, c'est la première des choses.
C'est un message qu'on transmet à la nouvelle ministre.
Exactement. C'est de pouvoir avoir les chiffres, voir les objets... Pour commencer à pouvoir réfléchir de manière approfondie pour ensuite faire des propositions. Les propositions, elles sont en partie faites, mais on a évidemment besoin de ces chiffres pour, et de ces objets, de voir exactement. Et moi, je trouve normal que les citoyens français puissent comme ça... C'est un musée imaginaire, hein, savoir ce qui est sorti de France, hein, et puissent voir par eux-mêmes ce qui se fait.
Éric, est-ce que vous voulez rajouter un mot par rapport à la conclusion que vous avez déjà faite, finalement?
D'abord, je dirais que la proposition de Julien Lacaze et de Cité Monument, elle va, à mon avis, tout à fait dans le bon sens, puisqu'elle va dans le sens de la valorisation des objets d'art dans le patrimoine privé. Ça va encourager les gens, si on va dans cette direction, on va les encourager à conserver leur patrimoine, à le développer même. Donc ça va tout à fait dans le sens que nous souhaitons. Le problème de la communication, pourquoi pas, si ce n'est que le fait de demander, par exemple, un certificat peut se faire dans le cadre d'une transaction privée. Quand je dis privée, c'est privé-privé, c'est-à-dire entre un frère et une sœur. Est-ce que c'est un dialogue qui doit être ouvert au public? Moi, j'en suis pas tout à fait certain.
Les éléments sont pas...
Les éléments privés...
Vous disiez...
Y a pas les noms des personnes.
Non,
et on ne sait pas qui vend à qui.
Non,
on ne sait pas qui a vend à qui. Et en plus, là, je veux dire que la CADA a dit ce qu'elle devait dire. Je vous demande, évidemment, parce que donc je suis intéressé par votre réaction, parce que c'est ce que je vous demandais d'ailleurs, mais ceci dit, voilà.
Je serais un peu prudent là-dessus quand même. Hein. Je pense qu'il faut qu'il y ait des garde-fous pour que. Vous me dites, on ne peut pas remonter jusqu'au propriétaire. Si, bien sûr, si la provenance est bien mise,
il y a une réserve justement, qui est la seule réserve de la CADA, quand il est de notoriété publique, donc c'est ce terme sur lequel il faut travailler. Qu'un objet appartient à un collectionneur, effectivement, le certificat ne va pas être communicable. Mais bon, ça représente notoriété publique, ça veut dire dans le public, pas dans le petit monde.
99% des objets qui sortent, je ne sais pas à qui ils appartiennent.
Ah bon? Tous ceux, moi, je le sais.
Bah oui, vous le savez,
mais justement, est-ce qu'il serait normal que je sache ce qui se passe chez mes concurrents? Moi, je ne suis pas certain.
Bah écoutez, en tout cas, la CADA a estimé que c'était normal. Je pense qu'il faut quand même
non, il n'y a pas de question de... concurrence, c'est un objet qui sort, à la limite, on ne sait pas qui le vend, ça peut être le propriétaire aussi qui le déménage.
Vous avez beaucoup de choses qui sont très indiscrètes quand même. Le prix?
Tant pis.
Le prix. Non, non, c'est la déclaration.
C'est le prix qui est déclaré. Est-ce que vous croyez que ça, c'est pas indiscret?
Alors attendez, est-ce que dans...
Écoutez,
le prix sera dessus, oui.
Oui, il y a le prix, mais qui est complètement...
L'estimation.
Il y a des prix qui sont complètement délirants, ou même des marchands qui se servent du certificat pour...
Oui, enfin, c'est souvent aussi le prix auquel un marchand va acheter un objet à un monsieur X ou Y. Est-ce que ça doit être public?
Je pense
qu'il faut être un petit peu prudent.
Vous avez donné votre opinion, mais malgré tout, nous restons sur nos positions.
Tout à fait.
Non, mais sur le principe, pourquoi pas? mais à condition, si vous voulez, que la confidentialité des transactions reste absolument protégée. Ça, j'y tiens beaucoup.
Il n'y a pas de transaction sinon, vous allez...
Non, il y a...
Mais c'est ça, justement.
Demande d'exploitation.
Il n'y a pas nécessairement...
Il n'y a pas de transaction. Il n'y a pas de transaction.
Vous allez avoir des levées de boucliers de propriétaires et d'acheteurs, surtout, qui vont chercher à protéger la confidentialité d'une partie de la transaction. Et je pense qu'ils auront raison.
Il n'y a pas de transaction, en fait. Hein. Objectivement, il n'y a pas de transaction.
C'est quelqu'un qui déménage.
C'est quelqu'un qui déménage.
Il prend son tableau pour aller s'installer à Londres, remplir un certificat si le seuil est franchi.
Si le prix pas, public,
et honnêtement, ça a été anticipé par la CNIL qui a rendu un avis tout à fait équilibré. On se range tout à fait par la CADA. On se range tout à fait à son.
Très bien. Voilà. Écoutez, merci pour ce débat qui, j'espère, a été intéressant pour nos auditeurs. Donc, nous ferons bientôt une troisième émission de l'art du débat. À bientôt. Au revoir.